France Musique. Musicopolis. Saint-Saëns, 1877, Paris. Avec le printemps 1877, le temps des résolutions est venu pour Saint-Saëns. Fini l'esclavage des dimanches à l'orgue. Fini les diktats des paroissiens qui veulent de la musique facile. Fini les conflits avec le clergé de la Madeleine. Il démissionne de la tribune qu'il tenait depuis presque 20 ans. Il ne part pas à la légère. Il sait qu'il aura moult engagements, comme pianiste virtuose, comme chef d'orchestre, comme compositeur. D'ailleurs, depuis 2 ans, il a un contrat avec l'éditeur Durand qui lui accorde un fixe en échange de l'exclusivité de ses œuvres. De quoi assurer la subsistance de sa famille. Il vit avec sa mère, sa jeune épouse et leur fils André. Puisqu'il n'a plus besoin d'habiter près de la Madeleine, Saint-Saëns déménage de la rue Saint-Honoré, où, depuis son mariage, l'appartement devenait un peu étroit, pour s'installer sur la rive gauche, rue Monsieur-le-Prince, tout près du jardin du Luxembourg. Il retrouve un peu le quartier de son enfance, puisqu'il est né rue du Jardinet, une petite impasse qui donne aujourd'hui quasiment dans le boulevard Saint-Germain. Et surtout, il habite le même immeuble qu'un de ses amis, lui-même neveu d'Albert Libon, directeur des postes, et habitué des séances de musique de Saint-Saëns. En quittant sa tribune de la Madeleine, Saint-Saëns a eu bien soin de laisser un poste à son jeune ami et protégé, Gabriel Fauré. En effet, celui-ci, à 32 ans, a bien du mal à se faire une place comme compositeur. Certes, il fréquente les salons et il fait publier ses mélodies, mais il n'a pas encore de sécurité de l'emploi et il tire le diable par la queue. Fauré a fait ses études à l'école Niedermeyer, où enseignait Saint-Saëns. C'est là qu'ils se sont connus. Une école destinée justement à former des maîtres de chapelle et, d'une manière générale, des musiciens d'église qui puissent accompagner les offices. Ça n'est pas tout à fait la vocation de Fauré, mais c'est une première sécurité qui s'offre à lui. À la Madeleine, il tiendra l'orgue de chœur, tandis que son aîné Théodore Dubois aura le grand orgue. Ce sera le destin de Fauré de toujours suivre Dubois. Il lui succédera au grand orgue de la Madeleine, puis au poste de professeur de composition au conservatoire, et enfin comme directeur de la même institution. Quoi qu'il en soit, à présent que Saint-Saëns est libéré de sa tribune, il peut enfin partir en tournée l'âme tranquille et sans avoir besoin de payer un remplaçant.
J'ai fait trois fois le tour du monde et les dangers pour mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est moins fureur. J'ai fait trois fois le tour du monde et les dangers pour mon bonheur. Italienne, circassienne, algérienne, chaque pays, ou blonde brune, monde vêtue, une chacune, fait très épris. Toujours demain.
Alors que Saint-Saëns vient de partir en tournée, à Paris, c'est encore la saison des créations lyriques. Le 19 avril, on donne la première représentation d'un opéra comique de Robert Planquette, Les cloches de Corneville. Monsieur Robert Planquette, nous dit une revue musicale, nous vient tout droit du café-concert. Il est jeune et déjà il a publié plus de 200 romances, chansons, etc. Le tout écrit au courant de l'improvisation. Il y en a de comique, de sentimental, de patriotique. Et les étoiles qui brillent au firmament du demi-monde musical lui doivent plus d'un succès. En touchant au rivage désiré de l'opérette, le jeune compositeur n'a rien cru devoir changer à sa manière. Il s'est présenté franchement, sans prétention, avec de la gaieté, de la bonne humeur, et le public l'a accepté tel quel. Une semaine plus tard, autre première, à l'opéra celle-ci.
Promesse de mon avenir, aussi d'un rêve de ma vie, aux beautés qui me furent ravies, enfin tu vas m'appartenir, aussi d'un. Viens charmer mon cœur amoureux, viens sourire aux splendeurs du monde, viens charmer mon cœur. Je t'aime, ma main te garde un diadème. Aussitôt viens, je t'attends. Aussitôt viens, je t'attends. Je t'aime, si toi tu seras reine.
Deux jours après la création du Roi de Lahore de Massenet, la revue et gazette musicale du 29 avril tient à souligner, je cite, « l'effet réel produit par le nouvel ouvrage du jeune et sympathique compositeur ». La grande salle de M. Garnier était pleine jusqu'au comble d'un public brillant, le président de la République en tête. Les applaudissements n'ont pas manqué à l'œuvre, non plus qu'à ses interprètes. Les décors, les costumes, les danses forment un véritable enchantement. Jamais jusqu'ici, l'art de la mise en scène n'a été poussé si loin. C'est une richesse, un éblouissement sans nom. C'est l'Orient pris sur le fait, avec toutes ses ivresses, avec tout son éclat.
Thank you.
alors qu'on fête Jules Massenet à Paris. Massenet qui est pour Saint-Saëns l'ami, rival, ennemi, respecté, selon le motif Gérard. Notre compositeur, lui, est en voyage. Genève et Lyon d'abord, où on lui commande une œuvre pour le Grand Théâtre. J'en reparlerai bientôt. Puis, avant de filer sur Londres, il passe par Anvers, où il assiste à une exécution de son oratorio « Le Déluge », créé 2 ans plus tôt à Paris. Selon un journal musical, l'œuvre a été l'objet d'un chaleureux accueil, ainsi que son auteur, qui était allé surveiller les dernières répétitions. Monsieur Adolphe Samuel, directeur du conservatoire de Gand, conduisait l'exécution. Le jour même où Saint-Saëns est à Anvers pour écouter son déluge, la Société nationale de musique donne à Paris, en création, le concerto en ré mineur de Marie Jaël. On peut penser qu'elle a eu l'occasion de montrer sa partition au maître, d'autant plus qu'elle lui est dédiée. Elle a souvent, en tant que pianiste, joué les œuvres de Saint-Saëns et depuis quelques années, elle est aussi son élève en composition. Ce sont des leçons informelles, plutôt des conseils ponctuels que lui donne Saint-Saëns. Il lui écrit par exemple « Chère madame, je ne suis pas libre demain, mais vendredi à 4h, je serai charmée de vous voir ou de vous gronder s'il y a lieu. Vous seriez bien aimable de m'apporter votre sonate, avec laquelle j'aimerais faire plus ample connaissance. Tout à vous, Camille Saint-Saëns. »
Thank you.
La tournée de Saint-Saëns se passe au mieux. Il est applaudi partout et sa musique est bien reçue à Genève, à Anvers et à Londres, terme du voyage. Là-bas, on joue son trio en fa et son quatuor en si bémol. Pendant qu'il est en voyage, a lieu à Paris ce qu'on a appelé la crise du 16 mai. Nous sommes dans les débuts de la Troisième République, qui n'est pas encore totalement stabilisée. Le président est le maréchal Patrice de MacMahon, monarchiste. En face de lui, la Chambre des députés a une large majorité républicaine. Or, MacMahon a décidé de nommer comme président du Conseil un homme qui réponde à ses idées politiques, le duc Albert de Breuil. Celui-ci forme un ministère de droite, d'ordre moral. L'Assemblée s'opposant à cette nomination, le président ajourne la session parlementaire, il met les députés en vacances pour un mois. Au mois de juin, la Chambre ayant refusé à nouveau sa confiance au ministère, MacMahon la dissout, comme la Constitution l'y autorise. La campagne électorale ne commencera qu'au mois de septembre, mais l'été et l'automne verront s'affronter le président MacMahon et son opposant le plus charismatique, Léon Gambetta. Les sympathies de Saint-Saëns, fervent républicain, vont au second. À côté de la crise du 16 mai, une nouvelle qui va davantage le toucher attend Saint-Saëns à son retour de voyage. Son ami Albert Libon, qui a été témoin à son mariage, est mort subitement. Sans en informer le compositeur, l'ami lui a laissé une somme importante afin qu'il puisse se consacrer à la composition pendant plusieurs années sans être astreint à des tâches alimentaires. Il devra en retour composer un requiem qui sera donné au premier anniversaire de la mort de Libon. En attendant, sa vie parisienne reprend son cours, avec des concerts, les séances musicales du lundi. Au mois de juillet, il assiste aux fiançailles de Forêt avec Marianne, la fille de Pauline Viardot. Le même mois, alors que sa musique fait les délices des festivals, à Hanovre notamment, où Liszt lui-même joue ses variations sur un thème de Beethoven, Saint-Saëns se livre à une querelle dans le journal Le Ménestrel à propos d'une reprise de La Perle du Brésil, opéra de Félicien David. Le journal Le Ménestrel a cru bon d'opposer la veine mélodique de La Perle du Brésil à l'école française moderne qui, selon lui, a troqué la science contre l'inspiration et s'assèche à vouloir imiter Wagner. Saint-Saëns adresse une lettre au directeur du journal dans laquelle il déplore, avec un douloureux étonnement, la reprise de cette éternelle et agaçante guerre aux jeunes musiciens français. « Notre jeune école, écrit-il, serait la proie d'un wagnérisme funeste et ne produirait que des œuvres anti-musicales et anti-françaises. » À côté des mots, voyons les faits. Quels sont les membres de cette école anti-musicale? Quelles sont ses œuvres wagnérisantes? Ce n'est pas, je pense, Guiraud avec Piccolino. Serait-ce Delibes avec le roi Lady, Sylvia et Coppelia? Ou Massenet avec Marie-Magdeleine et le roi de Lahore? Le Ménestrel a chanté le charme de leurs mélodies, les a loués de leur musique claire et vraiment française. Ce ne sont pas non plus Joncière ni Salvaire. Je ne vois plus que le timbre d'argent. Or, on a constaté, non sans surprise, que la musique du timbre d'argent n'avait rien de wagnérien, au contraire. Qu'on les montre donc, ces compositeurs féroces, ces œuvres incompréhensibles. Agréez mes meilleurs compliments. C'est Saint-Saëns. Air de Dalila, extrait du deuxième acte de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns avec Waltraut Meyer, Dalila, Placido Domingo, Samson, l'orchestre de l'Opéra Bastille dirigé par Myung-Woon Chung. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Bruno Mourlan pour le mixage et Béatrice Trichet pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.